Et donc, nous sommes toujours dans une émission de Sortir du capitalisme avec Armand Paris pour parler dans cette deuxième partie du sionisme de 1882 à 1948. Avant de te laisser la parole, Armand, je vais faire une toute petite rétrospective que je trouve intéressante sur les années avant 1882 et même après. En fait, qui donne bien un contexte à comment l'impérialisme dans l'Empire ottoman a agencé et a du coup transformé la région, transformé l'Empire ottoman lui-même et conditionné la plupart des horreurs qui se sont passées pendant la Première Guerre mondiale dans cette région. Alors, il faut savoir que pendant tout le XXe siècle,
Tu as dit 10, t'as dit 20e, mais c'est 19e siècle que tu voulais
oui,
dire, évidemment.
19e siècle, 19e siècle. Le lieu, le Moyen-Orient et surtout l'Empire ottoman décadent est devenu une zone d'influence des puissances impérialistes qui essaient ou de maintenir l'Empire ottoman dans le cas de l'Angleterre et la France pour contrebalancer les intentions hégémoniques russes sur le Moyen-Orient. Et du coup, on a une concurrence permanente dans ce secteur qui prend la forme parfois d'affrontements armés comme la guerre de Crimée qui oppose l'Angleterre, la Russie et la France en Crimée justement pour empêcher l'effondrement de l'Empire ottoman sous les coups de l'armée du tsar. Mais du coup, à part ces épisodes violents, qui sont quand même assez exceptionnels, elle prend la forme d'un jeu d'influence à l'intérieur de l'Empire ottoman, sous forme de conquêtes économiques, de monopoles, des chemins de fer, de dettes. En gros, c'est une cannibalisation de l'intérieur de l'Empire ottoman. Mais dans le cas, justement, des minorités au Moyen-Orient, ce qui va nous intéresser, c'est comment les puissances impérialistes occidentales ont utilisé les minorités ethniques dans l'Empire ottoman comme minorités clients qui leur servaient d'étendre leur influence dans l'Empire et aussi de contrebalancer l'influence des autres pays. Et du coup, ça date du 19e siècle. On a le cas, par exemple, des Russes avec les populations orthodoxes et chrétiennes orientales de Syrie, les Français avec les populations catholiques et les Anglais aussi avec, par exemple, les Juifs historiques de la Palestine et aussi la tentative de création de nouvelles minorités en convertissant des chrétiens locaux en tant que protestants. Et en gros, c'est des jeux qui tournent autour des ambassades et les minorités, pendant un moment, au bout d'un moment, viennent régler leurs conflits dans les ambassades impérialistes, par exemple à Beyrouth ou même à Constantinople. Et du coup, cette dynamique de cannibalisation de l'intérieur et aussi d'utilisation des minorités ethniques dans l'Empire ottoman. À leurs dépens, aux dépens de l'Empire. C'est même, je dirais, c'est la création de minorités, parce que l'Empire ottoman en lui-même n'était pas un État national avant l'arrivée de la modernité. Ce n'était pas vraiment un État turc. L'appareil d'État ottoman était longtemps contrôlé par des esclaves chrétiens, arméniens, etc., etc. Et alors l'impérialisme occidental, en utilisant les minorités d'un empire affaibli, va créer en fait, va créer le nationalisme turc en opposition. C'est-à-dire que les populations turques de l'empire, à travers l'influence impérialiste dans l'empire ottoman, ça va créer la création d'un mouvement national turc. Qui va penser, du coup, en réaction, que Le retour à la grandeur passée de l'Empire ottoman, c'est le retour, c'est la création d'une nation turque qui domine les autres minorités impériales qui sont soupçonnées d'être les agents de l'intérieur des puissances occidentales. Ce qu'elles étaient pour certaines, sans le vouloir en vrai. En réalité, c'était du clientélisme, mais les minorités, elles étaient un peu manipulées dans ce processus. Et du coup, c'est ce processus qui va amener, à l'explosion, en fait, au fait minoritaire au Moyen-Orient, qui n'est pas transhistorique, mais qui est devenu de nos jours un fait éclatant au Liban, en Syrie, et du coup, en Israël-Palestine, parce que les Juifs sont une minorité convoitée par la puissance impérialiste anglaise dans ses objectifs d'investissement du Proche-Orient au Levant, quoi. Je termine parce que on peut voir que cette politique, elle a eu une influence immense sur le Proche-Orient, parce que c'est ça qui va mener au final à l'extermination des Arméniens. Je dis pas que justement les Turcs, encore le mouvement nationaliste turc a toute la responsabilité du génocide des Arméniens, mais la création même du mouvement nationaliste turc est un sous-produit de l'impérialisme occidental dans la région. Voilà. Et c'est Georges Korn qui en parle dans son livre, et c'est de ses explications sur le Proche-Orient, d'où vient cette explication.
Oui, bah c'est important effectivement de préciser ce contexte géopolitique, puisque dans une autre émission qu'on a consacrée donc à la formation sociale palestinienne à cette époque-là, j'avais pas tellement parlé des aspects géopolitiques, et du coup je pense que c'est vraiment essentiel ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement on ne peut pas comprendre effectivement le développement du mouvement sioniste sans prendre en compte ça. Sans prendre en compte la situation de l'Empire ottoman, je dirais de deux manières. La première manière, c'est que tous les migrants sionistes qui arrivent à partir des années 1880, chassés d'Europe par les pogroms antisémites sous le tsarisme notamment, et poussés par la naissance de le sionisme comme mouvement nationaliste. L'idée que être juif, c'est une identité politique, et donc il faut un état juif quelque part, ou au moins un foyer national juif quelque part. Ça, c'est une idée qu'on trouve déjà dans les années 1890. Et en fait, le fait que ces juifs qui sont très minoritaires, ils sont quelques milliers qui s'installent en Palestine dans les années 1890, le fait qu'ils puissent le faire, c'est un privilège colonial. C'est parce que ils sont des citoyens de seconde zone, certes, mais malgré tout des citoyens, ou des sujets, pour ceux de l'Empire russe plus précisément, de puissances impériales qui ont acquis des privilèges au sein de l'Empire ottoman, qui, comme tu l'as dit, est en décadence, ou en déclin en tout cas géopolitiquement, qu'ils arrivent à s'installer. Hein, si ça avait été, je dis n'importe quoi, des juifs qui venaient d'Amérique centrale, bon bah ils auraient pas pu rentrer dans le territoire. Ils ont pu s'installer dans l'Empire ottoman parce qu'ils bénéficiaient de la protection consulaire et du fait qu'en fait ils étaient des citoyens ou des sujets d'empire qui avaient une influence impérialiste réelle au sein de l'Empire ottoman. Et deuxièmement, pour prendre le cas plus précisément des Anglais, les Anglais, effectivement, alors ça va pas se faire tout de suite, hein, mais ils vont finir par, justement, comme tu l'as dit, utiliser les sionistes comme minorité à l'intérieur du Moyen-Orient. Alors, ça va se faire doucement. Ce qui est intéressant de dire par rapport à ça, c'est que, d'une part, Herzl, le fondateur du mouvement sioniste, a dès le début dit « il nous faut une sorte de puissance impériale qui nous aide, qui nous sponsorise d'une certaine manière dans notre mouvement de création d'un foyer national juif en Palestine, ou ailleurs dans un premier temps, mais en Palestine assez vite. » Et assez rapidement, il va se il va se tourner, il va aller voir un peu tout le monde, et puis il va, bon, personne ne va lui dire oui au début, hein, il va aller voir, y compris le Kaiser allemand, en disant, bon, bah, vous, vous voulez plus de juifs, nous, on veut que les juifs aient un état, en fait, nos intérêts convergent. Et puis, d'autre part, les Britanniques, bon, ils envisagent depuis, alors c'est pas très clair, mais disons peut-être le milieu du 19e siècle, voilà, pourquoi pas utiliser la minorité juive comme, voilà, justement, une de ces minorités clientes dont tu as parlé. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'idée va mûrir chez les Britanniques, donc à partir du milieu du 19e siècle, mais plus précisément au début du 20e siècle, l'idée que, ah bah pourquoi pas sponsoriser le mouvement sioniste avec cette idée que les sionistes formeraient, hein, c'est l'expression, je crois, si je me souviens bien, justement, du fameux Lord Balfour, hein, qui était ministre des Affaires étrangères en 1917, et qui a fait cette fameuse déclaration Balfour, dont pas mal de gens ont entendu parler récemment. Ils envisagent cette espèce d'entité sioniste qui serait créée, ce foyer national juif, comme une sorte de Ulster. Et qu'est-ce que c'est Ulster ? C'est l'Irlande du Nord. C'est-à-dire une minorité religieuse, hein, puisque les protestants sont une minorité religieuse sur l'île d'Irlande, une minorité religieuse donc rattachée à, par des liens d'alliance à l'Empire britannique. Mais je pense que, même si c'est important de comprendre ça, je pense qu'il faut revenir un petit peu en amont pour comprendre le mouvement sioniste. En fait, le mouvement sioniste, il est... Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, il n'est pas exceptionnel dans le sens où il est le produit, à la fin du 19e siècle, de trois dynamiques beaucoup plus générales. Qui sont, en fait, on peut dire que c'est un produit de l'Europe de la fin du 19e siècle, en le sens que c'est un produit de l'antisémitisme, qui frappe violemment les populations juives d'Europe à la fin du 19e siècle, avec les pogroms, l'affaire Dreyfus, etc., etc., et qui, du coup, les pousse, en fait, à chercher d'autres horizons. Donc la plupart, encore une fois, vont plutôt partir aux États-Unis qu'en Palestine, ils sont très peu à partir en Palestine dans un premier temps. C'est ensuite un produit du nationalisme européen. Ce nationalisme européen, pour une partie d'entre eux, il les rejette. Ils considèrent que les Juifs ne font pas partie de la nation russe, hongroise, française, etc. Mais ils leur donnent un modèle sur lequel ils vont se baser. C'est-à-dire que le nationalisme sioniste, en fait, il est basé sur le nationalisme d'Europe centrale et d'Europe orientale, puisque le sionisme est né en Europe centrale et orientale. Hein. Herzl venait de l'Empire d'Autriche-Hongrie, il vivait à Vienne. Et c'est quoi le nationalisme ? On le voit aujourd'hui russe, c'est l'identité entre une langue, une culture et une religion. Et donc, eh ben les nationalistes sionistes, ils vont dire, ah ben nous on a ça, on a l'hébreu, donc ils vont réinventer l'hébreu, qui était... personne ne parlait hébreu hein, au 19e siècle chez les juifs, donc ils vont réinventer l'hébreu ancien, et ils vont recréer une nouvelle langue qui s'appelle l'hébreu moderne, qui est parlé aujourd'hui en Israël, parce qu'à l'époque, les juifs parle plutôt le yiddish hein, en Europe centrale et orientale. Ensuite, également, ils vont se concevoir comme unis par une culture, comme un peuple, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et par une religion, voilà. Même si, encore une fois, l'aspect religieux est important, mais c'est pas, ils sont pas particulièrement religieux, les premiers sionistes. Hein. C'est vraiment, ça date des années 70, le tournant religieux dominant, on va dire, en Israël et dans le mouvement sioniste plus généralement. Et enfin, le sionisme, c'est le produit du colonialisme. On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est le produit de l'idée européenne hein, de l'époque, bon, même si partagé aussi par les Japonais et les Américains, qu'il y a une sorte de supériorité civilisationnelle et que donc... on a le droit de s'installer dans d'autres territoires sous prétexte qu'on est supérieur aux populations locales, qu'on leur apporte la civilisation, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans les discours notamment de Herzl, qui parle du futur État juif en Palestine comme d'un avant-poste de la civilisation face à la barbarie. Il faut lire les déclarations des grands leaders sionistes du début du XXe siècle pour voir à quel point ils méprisaient les Arabes et les Palestiniens. Et en ça, c'est pas exceptionnel. En fait, c'est assez classique. En fait, on peut dire que la seule chose qui est vraiment exceptionnelle dans le mouvement sioniste, c'est que c'est le produit de l'antisémitisme. Mais le fait que c'est un mouvement de colonisation de peuplement poussé par des persécutions religieuses, plus généralement ou racistes, c'est assez général. La colonisation de l'Amérique du Nord s'est faite par des minorités religieuses persécutées. Et si on élargit à pas simplement la persécution religieuse, mais aussi la persécution politique, ceux qui ont colonisé la Nouvelle-Calédonie, ce sont les communards persécutés politiquement et expulsés de France. Pareil pour l'Australie, c'est des prisonniers britanniques. En fait, on voit que le sionisme, c'est un produit de l'Europe de la fin du 19e siècle, dans le sens où c'est un mouvement de colonisation de peuplement et nationaliste, poussé par des persécutions religieuses et raciales, mais ça, c'est pas particulièrement spécifique au sionisme.
Et oui, et je voudrais dire que il y a un argument qu'ils utilisent qui est pas du tout spécifique, c'est les terres mal cultivées, en fait, le développement économique supposé faible, des terres langoureuses qui n'attendent que une exploitation rationnelle. Ça, le colonialisme, il l'a utilisé à peu près partout dans le monde, même pas que pour des colonisations de peuplement.
Oui, t'as tout à fait raison, effectivement, de cet argument. Et d'ailleurs, cet imaginaire qu'on reproche beaucoup à l'idéologie sioniste de une terre sans peuple pour un peuple sans terre, en fait, c'est pas du tout spécifique au sionisme. Hein. C'est exactement ce que se sont dit les Australiens. La constitution australienne de la fin... Alors, je me souviens plus si c'est la fin du 18e ou du 19e siècle, mais enfin, en tout cas, la constitution australienne, la première, elle dit... en fait, il y avait personne avant nous. C'est-à-dire que les aborigènes, ils comptent pour rien, en fait. Et toutes les colonisations de peuplement... occidentales, pour le coup, se sont basées sur la négation de l'existence d'une population locale ayant des droits légitimes, sous prétexte que, comme tu l'as dit, elle ne cultivait pas ses terres de manière marchande et capitaliste, notamment. Donc il y a vraiment cette idée de la négation de la négation du caractère civilisé, c'est ça le grand critère de distinction à l'époque. Et donc, au nom du fait que c'est les Amérindiens, les Aborigènes ou les Palestiniens, dans le cas qui nous occupe, le fait que ces populations-là ne sont pas civilisées selon les critères occidentaux impérialistes de l'époque, du coup, ça justifie le fait qu'on peut les déposséder, on peut les expulser, on peut les massacrer. Et encore une fois, ça, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est pas du tout spécifique... C'est pas du tout spécifique au sionisme. Alors maintenant, peut-être pour aborder un autre aspect du sionisme dont il faut parler, on peut se poser la question déjà comment est-ce que ça va se cristalliser. Globalement, il y a déjà des idées sionistes, mais plus ou moins vagues, et pas forcément l'idée de créer un État juif en Palestine dès le milieu du 19e siècle, mais vraiment, on va dire, le sionisme, le projet sioniste qui va prendre, c'est vraiment le projet porté par Herzl, et qui est vraiment l'idée de créer un État juif. Alors, au début, pas forcément en Palestine, et c'est pour ça qu'on voit que c'est vraiment un mouvement de colonisation de peuplement. À un moment, ils étaient prêts à aller coloniser l'Ouganda ou coloniser l'Argentine, enfin, disons, ce que les impérialistes leur laisseraient. Et puis finalement... notamment pour gagner à leur cause les juifs religieux, même si dans un premier temps ça marche pas, ils se rabattent en fait sur la Palestine. Même si la Palestine, a priori, c'est compliqué parce qu'il y a déjà une population locale, et ça, malgré l'idéologie sioniste de une terre sans peuple pour un peuple sans terre, en fait ils le savent très bien. On connaît leurs écrits depuis la fin du 19e siècle. Ils se rendent bien compte qu'il y a des gens, et que ces gens-là, ils sont pas très contents qu'on leur vole leur terre. Qu'on les dépossède, disons. Donc voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le projet sioniste, même s'il se développe un petit peu fin 19e, début 20e siècle, poussé encore une fois par la combinatoire de l'expansion coloniale européenne, notamment de colonisation de peuplement, l'antisémitisme et la montée du nationalisme, malgré tout, bon, si on prend la Palestine en 1914, on se dit, bon, le projet sioniste, il a peu de chances d'aboutir. Ils sont dans un empire qui est pas trop chaud de les recevoir, qui les reçoit un peu contraints et forcés parce que l'impérialisme occidental, mais voilà. En fait, le tournant, ça va être vraiment 1917, parce que c'est le moment où les Britanniques conquièrent la Palestine, et ils font cette fameuse déclaration Balfour. Alors, très rapidement, cette déclaration Balfour, c'est quoi ? C'est dire, c'est une lettre envoyée à Lord Rothschild, donc pas le Rothschild français, mais le Rothschild anglais, du ministre des Affaires étrangères, qui dit « Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement la création d'un foyer national juif en Palestine. » Et puis après, il dit qu'il ne devra pas porter atteinte aux droits des populations locales, mais enfin bon, c'est un peu quand même la deuxième partie de la lettre. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça, les Britanniques ? Ils font ça pour plusieurs raisons. Un, parce que ils sont marqués par cette idée du sionisme religieux, qui est une idée chrétienne évangélique un peu bizarre, mais en gros de dire, quand les Juifs seront retournés en Palestine, il y aura le retour du Christ sur Terre, ce sera le jour du jugement dernier, enfin voilà. Et malgré tout, bon, c'est une petite influence religieuse qui n'est pas négligeable et qui explique qu'aujourd'hui encore, les évangélistes aux États-Unis sont un énorme soutien d'Israël. Ça, c'est la première raison de fond. La deuxième raison, c'est en fait que le gouvernement britannique, qui est antisémite, hein, qui a un imaginaire antisémite, ils se disent, si on fait un geste envers les Juifs en créant un foyer national juif en Palestine, en fait, les Juifs qui ont pris le pouvoir en Russie, hein, c'est leur imaginaire, c'est même si c'est pas du tout le cas, mais les Juifs qui ont pris le pouvoir en Russie, avec la révolution de février, nous soutenir, ils vont continuer la guerre, parce que c'est un des enjeux en 1917, c'est qu'il faut que la Russie continue la guerre. Bon, ça va pas marcher, puisque les bolcheviks vont prendre le pouvoir. C'est l'objet d'une autre émission. Et la troisième raison, qu'on a déjà parlé, c'est évidemment l'idée de « Ah ouais, ce serait quand même intéressant de préempter la Palestine lors du partage des dépouilles de l'Empire Ottoman. » Parce qu'en 1917, globalement, les choses sont assez claires. On n'est pas sûr qu'on va gagner la Première Guerre mondiale du côté français et anglais, mais par contre, on est sûr qu'on va battre l'Empire Ottoman. Ça, c'est à peu près établi, ou en tout cas, il y a des plans. Et il y a le fameux accord Sykes-Picot, hein, dont on a beaucoup parlé, au moment de Daesh, il y a quelques années. Les accords Sykes-Picot, c'est des accords qui visaient à diviser le Moyen-Orient entre les Français, les Anglais et les Russes. Sauf que, dans ces accords, il était prévu que la Palestine serait un mandat commun. C'est-à-dire que ce serait ni les Britanniques, ni que les Français, ni que les Russes. Ce serait une sorte de condominium, en gros. Ce seraient ces trois puissances, en gros, qui contrôlaient la Palestine. Sauf que les Britanniques, ils n'ont pas envie de ça. Eux, ils veulent la colonie pour eux, parce que la Palestine, c'est extrêmement stratégique, c'est juste à côté du canal de Suez, qui est l'artère qui relie en gros la Grande-Bretagne avec ses colonies, notamment l'Inde et les autres colonies asiatiques de la Grande-Bretagne. Et du coup, ils se disent, si justement on crée cette minorité nationale, bon, elle est déjà un petit peu là, mais disons que si on l'encourage et qu'on lui donne un statut politique, on va pouvoir dire, nous, on est les protecteurs des Juifs de Palestine, et donc, il faut nous laisser le mandat. Et c'est un calcul qui va s'avérer juste, puisqu'au final, c'est bien les Britanniques qui vont récupérer le mandat sur la Palestine, et pas aussi les Français et les Russes. Et donc, 1917, c'est vraiment un tournant, puisqu'en gros, c'est la première fois que le mouvement sioniste, qui jusque-là était un mouvement, certes, qui était financé par des capitalistes juifs, pour divers motifs, parfois des motifs religieux, parfois aussi des motifs moins glorieux, comme notamment les capitalistes juifs américains qui se disent « Bon, si tous les juifs qui fuient l'antisémitisme d'Europe, ils arrivent aux États-Unis, ça va faire monter l'antisémitisme aux États-Unis, et on n'a pas envie de ça, donc il vaut mieux qu'ils aillent ailleurs et qu'ils aillent en Palestine. » Bon, il y a différents calculs comme ça, il y en a aussi qui pensent qu'ils vont se faire de l'argent avec les plantations et tout ça. Enfin bref, c'était un mouvement qui était financé, il y avait déjà un fonds de colonisation, hein. Les termes sont très clairs à l'époque, hein. Le mouvement sioniste a bien conscience qu'ils sont dans un mouvement colonial. Un colonial, à l'époque, c'est cool. Hein, aujourd'hui, c'est mal vu. Mais à l'époque, c'est cool. C'est dans l'air du temps. Mais bon, malgré tout, ils ont des moyens, ils ont des milliers de migrants, ils bénéficient de leurs privilèges coloniaux pour aller dans l'Empire ottoman. Hein. Mais bon, on voit pas comment ça peut aller beaucoup plus loin. Et en fait, le fait qu'ils vont être sponsorisés par les Britanniques, ça va être le moment vraiment clé, parce que, et c'est là où effectivement, quand les sionistes de gauche, notamment Yvan Segré, dit il n'y a pas de métropole, il n'y a pas de métropole au sens où les Juifs, ils viennent de Grande-Bretagne. Oui, ils viennent pas de Grande-Bretagne. Mais il y a métropole au sens où c'est une minorité colonisatrice de peuplement qui est activement soutenue par la Grande-Bretagne. Alors certes, pas jusqu'au bout. En 1939, les Britanniques, ils vont cesser d'aller vraiment dans le sens des sionistes. Mais entre 1917 et 1939, les bases de l'État d'Israël et de la Nakba sont posées. Entre 1917 et 1939, la Grande-Bretagne, puissance coloniale occupante de la Palestine, va laisser se développer une colonisation de peuplement juive. Il va autoriser une immigration massive de juifs en Palestine. Il va autoriser également le développement d'institutions séparées. C'est-à-dire que dès les années 20, il y a déjà une sorte de proto-État israélien, en fait, à cette époque. Et donc, c'est vraiment à partir de ce proto-État, il va y avoir une proto-armée, la Haganah, qui va se développer, un proto-gouvernement avec le Yishuv, pardon, l'agence juive qui est créée en 1929. Bref, les Britanniques vont laisser se développer une sorte de proto-État qui aura déjà des milices armées, un gouvernement, une économie séparée, et sans ça, on ne peut pas comprendre le triomphe du projet sioniste en 1947-48.
Oui, je voulais revenir sur l'argument de la métropole. Mais je pense que c'est un très mauvais argument et qui est facilement démontable. Parce qu'il suffit de regarder les exemples historiques comme les États des Boers en Afrique du Sud, c'est-à-dire des États de colons autonomes hollandais, mais aussi d'origine française pour certains, qui sont à l'intérieur de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire loin des côtes, et qui entretiennent... qui sont depuis longtemps déliés de la métropole hollandaise et qui existent tout au long du 19e siècle. On voit bien, ou même l'Argentine, en fait, des États anciennes qui avaient d'anciennes métropoles mais qui deviennent des forces de colonisation par elles-mêmes. Je vois pas en quoi l'argument de l'origine ou de la métropole empêche le statut colonial. Qui nierait que les États Boers de Pretoria ou de l'État libre d'Orange ne sont pas des colonies.
Ah oui, non, mais t'as tout à fait raison, et je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est un des trucs que je critiquais justement avec, voilà, le pire ou les positions des coloniales en France. La vraie comparaison qui marche vraiment bien, en fait, c'est avec l'Afrique du Sud. Et ça marche très bien avec l'Afrique du Sud, notamment par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce qui se passe, en fait, en Afrique du Sud, pour aller vraiment à la hache, parce que c'est pas le sujet de l'émission, mais en gros, au XVIIe siècle, il y a des colons qui arrivent en Afrique du Sud, principalement autour du Cap hollandais, principalement, mais aussi un peu des Français protestants. Bon, ils sont assez minoritaires, ils contrôlent pas grand-chose. Et au 19e siècle, ils se sont un petit peu étendus, mais il y a les Britanniques qui arrivent et qui conquièrent la colonie du Cap. Et du coup, ils sont un peu chassés et ils supportent mal la tutelle britannique. Donc, ils vont vers l'intérieur des terres et ils vont coloniser de peuplement, ils vont faire une colonisation de peuplement à l'intérieur des terres de ce qui va devenir l'Afrique du Sud, avec notamment l'État libre de Orange, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les républiques Boers. Et effectivement, là, on peut dire, il n'y a pas de métropole. Ils sont soutenus politiquement par personne, mais vraiment par personne. Ils sont même pas soutenus un peu par la Grande-Bretagne, comme les sionistes entre 1917 et 1939. Ils sont soutenus par personne. Et ça montre bien, encore une fois, que il n'y a pas besoin d'une métropole pour avoir une colonisation de peuplement. Mais en plus, ce qu'on pourrait rajouter dans le cas sioniste, c'est qu'il y a quand même une colonisation, il y a quand même une métropole, plus ou moins entre 1917 et 1939. Mais t'as tout à fait raison de souligner ça. Bon, les Boers, finalement, ils vont perdre la guerre à la fin du 19e siècle. ils vont être forcés de s'intégrer dans une Afrique du Sud britannique. Et c'est là la deuxième comparaison qu'il faut faire avec, le deuxième parallèle qu'il faut faire avec, avec Israël-Palestine. En fait, les Beurs, au début du 19e siècle, ils vont se dire, bon, l'Afrique du Sud est britannique, il faut faire avec, on va subvertir les institutions de l'intérieur. On va accepter l'Empire britannique pour, petit à petit, constituer un État, ce qu'ils vont appeler l'État national, c'est-à-dire l'État afrikaner. Donc en fait, ils vont dire, ok, on s'allie avec la Grande-Bretagne, ils vont accepter, par exemple, de participer à la Première Guerre mondiale, aux côtés des Britanniques, et petit à petit, ils vont prendre le contrôle de cette entité jusqu'à rompre complètement les ponts avec la Grande-Bretagne à la fin des années 40. D'ailleurs, en 48, l'apartheid est instauré, c'est quand même intéressant de pointer le parallèle historique avec, avec l'État d'Israël. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de métropole, c'est pas forcément un critère pour dire que c'est pas colonial. Et deuxièmement, le fait qu'il y ait rupture avec la métropole, à un moment, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été colonial. Oui, les Afrikaners ont rompu avec les Britanniques, à peu près en même temps d'ailleurs que les sionistes ont rompu avec les Britanniques. Mais ça ne veut pas dire que pendant un moment, les Afrikaners, tout comme les sionistes, alors les sionistes beaucoup plus, hein, pour le coup, n'ont pas bénéficié de la puissance coloniale britannique pour étendre leur territoire, puisque hein, les Anglais, c'est les Anglais qui ont constitué, par leurs opérations militaires, le territoire de l'Afrique du Sud actuel qu'on connaît dans toute son ampleur. Donc, d'une certaine manière, les Afrikaners aussi, ils ont bénéficié de cette métropole, entre guillemets, britannique. Et le dernier parallèle que je ferai, c'est que dans les deux cas, on a eu des mouvements au pouvoir qui se réclamaient du socialisme. Ça, c'est un truc très bizarre, hein. Mais Israël, ça a été fondé par des gens qui se revendiquaient du socialisme. Même si, bon, ça les a pas empêchés d'expulser 500 000 Palestiniens en 47-48. Bon, ce qui n'est pas très socialiste à mon goût. Mais dans les deux cas, il y avait cette idée, oui aux droits des travailleurs, mais les droits des travailleurs blancs dans un cas et juifs dans l'autre. Il y a ce slogan en Afrique du Sud que je trouve très parlant, c'est « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous pour une Afrique du Sud blanche ». Et finalement, le slogan de l'Istradout des années 20, « Le travail juif », finalement, on est un peu dans les mêmes idées. C'est-à-dire, c'est l'idée que primauté quand même, alors on est des travailleurs, mais primauté quand même au fait qu'on est avant tout des colonisateurs de peuplement et qu'on a des intérêts divergents des prolétaires noirs d'un côté et palestiniens de l'autre.
Justement, ça me fait réfléchir à un truc, justement, ces mouvements socialistes qui deviennent des forces de colonisation. On pourrait faire le lien avec les puissances impérialistes qui créent des systèmes sociaux en leur sein pour faire bénéficier aux prolétaires du centre les fruits des politiques coloniales, mais aussi je me dis que c'est encore plus nécessaire pour les États coloniaux, les États de peuplement en formation, d'avoir une unité de classe en leur sein, et du coup pratiquement une nécessité d'avoir un semblant de social, en fait, la social-démocratie pour ces États, je pense, après c'est un peu mon analyse, c'était un peu une nécessité, quelque part.
Oui, je suis totalement d'accord avec toi, et je trouve que c'est une analyse extrêmement intéressante et extrêmement pertinente sur le fait que, effectivement, en fait, les sionistes avaient besoin que les divisions de classe qui existaient, soient atténuées et qu'il y ait une primauté sur l'unité face aux Palestiniens pour la colonisation de peuplement. Et de la même manière, l'Afrique du Sud, pré-apartheid, mais aussi post-apartheid, avait besoin de cette unité des Blancs, par-delà les classes, entre guillemets, autour de ça. Et il n'y a que la social-démocratie qui peut créer ce compromis capital-travail. Si le projet Rothschild, du Rothschild français, d'une simple colonisation de peuplement avec des plantations, s'il avait triomphé au sein du mouvement sioniste, le mouvement sioniste n'aurait jamais triomphé. Puisque du coup, eh ben, ça aurait créé des tensions trop fortes à l'intérieur de la formation sociale juive. Il y aurait probablement eu des alliances de classe entre les Juifs et les Arabes, il y aurait probablement eu des tensions aussi, puisque... voilà, mais en tout cas, je pense que tu as tout à fait raison de dire que la social-démocratie a été un atout, en tout cas indéniable, pour les projets de colonisation de peuplement en Afrique du Sud et en Israël. Et c'est pour ça que c'est des mouvements... Enfin, en Israël, hein, voilà, c'est encore une fois, le mouvement, un mouvement qui se réclamait du socialisme, entre guillemets, est resté au pouvoir quand même de manière ininterrompue jusqu'en 1977.
Et je dirais que c'est encore plus réussi du côté israélien. Parce qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que justement, l'Afrique du Sud et le social, c'est plus compliqué que ça, et que le parti au pouvoir, dans sa version socialiste, Zant, était plus un parti national... plus proche du fascisme, justement, qui c'était un grand parti qui reliait les conservateurs jusqu'à des fascistes, et que les luttes de classe entre blancs étaient plus grandes en Afrique du Sud qu'elles ne l'ont été autre part. Je sais qu'il y a eu des grandes grèves de mineurs blancs en Afrique du Sud. Mais évidemment, ça faisait partie de la politique, en tout cas.
Oui, oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. En fait, déjà, une grande différence, c'est que comme il n'y avait pas de séparation entre... Enfin, il y avait séparation, mais dans les lieux de travail, mais il n'y avait pas d'économie autarcique, entre guillemets, blanche, et du coup, ça faisait que, du coup, la solidarité, disons, de classe à l'intérieur des... disons, du groupe blanc, entre guillemets, était plus faible, puisque du coup, il y avait vachement plus de tensions de classe. Mais oui, je suis d'accord que c'est... Effectivement, c'est plus réussi dans le cas israélien et avant 48, voilà, dans le Yishuv, hein, qui est cette espèce de proto-État sioniste en Palestine. Je suis d'accord avec toi qu'effectivement, c'est une grande différence. Mais qui est lié encore une fois, voilà, au fait que le mouvement sioniste s'est concentré sur l'exclusion des Palestiniens du marché du travail, l'exclusion totale de leur marché du travail, alors que c'était juste un marché du travail hiérarchisé dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, mais il n'y avait pas de séparation totale. Et d'autre part, il y a aussi la dynamique de dépossession foncière. Bon, l'Afrique du Sud, déjà, c'est beaucoup plus grand. Il y a eu une dépossession foncière massive. Hein. Les Blancs, encore aujourd'hui, ont une grande partie des terres. Mais bon, disons que bon, Israël-Palestine, pour le coup, c'est vraiment tout petit. Donc, les dynamiques de dépossession foncière qui, du coup, fait que, bon, il y a quand même Enfin, c'est intéressant de dire que la dépossession foncière, quand même, en Israël, a pris la forme principale, notamment, du mouvement Kibbutzim, qui est un mouvement, on a l'impression, super, socialiste, les femmes, elles travaillent, etc., mais qui était basé, quand même, sur l'exclusion totale des Palestiniens, même s'il y a eu quelques kibbutz qui avaient des liens, etc., mais c'était marginal, quand même.
Et, justement, le cas du kibbutz, c'est intéressant, parce que, peut-être que là, on dévie encore, mais il me semble que, pareil, dans la colonisation de l'Amérique, la création de colonies ou le travail est collectif, c'est quelque chose qui fut assez courant à une époque.
Oui, notamment les Mormons, les Amish, etc. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un des trucs qui leurre énormément les sionistes de gauche, c'est de ne pas voir qu'en fait, il n'y a pas de contradiction entre avoir des principes socialistes et être un mouvement colonialiste. Dans le sens où c'est simplement le socialisme, mais pour les Blancs, comme le slogan, ou pour les Juifs, dans le cas d'Israël, comme le slogan « prolétaires de tous les pays, unissez-vous pour une Afrique du Sud blanche » le montre. On peut à la fois être internationaliste et être colonialiste.
Bon, il y a des contradictions qui existent, parce qu'au final, c'est dans... comment dire, leur socialisme se réduit souvent à de la social-démocratie mais t'as raison.
Oui, non, mais bien sûr, c'est pas le socialisme en réalité, c'est simplement une sorte de compromis de classe en donnant quelques avantages aux prolétaires sous la forme de la social-démocratie. Bien sûr, je veux dire, c'est pas. Sinon, enfin voilà, ça aurait pas été possible autrement. Mais oui, c'est sûr qu'en tout cas, ça joue.
Mais c'est là où notre débat est intéressant parce que on montre bien que la collaboration de classe et du coup les formes social-démocrates sont nécessaires à la colonisation de peuplement. Et ça, je pense que c'est un argument important pour démystifier le rapport romantique au socialisme que souvent les sionistes de gauche ou même des gens pas forcément sionistes, mais qui même Lordon à une époque il avait écrit comme quoi les kibboutz c'était un exemple de socialisme intéressant pour démystifier ça quoi que montrer que ben non c'est pas une exception c'est pas à une un paradis perdu qui s'est perdu dans le colonialisme non c'était une fonction nécessaire dans et surtout au début de la colonisation de peuplement là où les conflits sont les plus grands parce que de nos jours la société israélienne elle est entranchée elle est stabilisée elle a plus force elle peut avoir des gouvernements d'extrême droite au début c'est moins évident.
Oui, bien sûr. Non, je suis complètement d'accord avec toi que si le sionisme travailliste a triomphé dans les années 20, c'est aussi que c'était en fait une nécessité. Si on prend leurs grands adversaires de l'époque, bon, une fois que l'idée de faire une colonisation de peuplement à l'Algérienne est écartée dans les années 1910, avant 1914, le grand adversaire du sionisme travailliste, ça devient le sionisme révisionniste. Hein, qui aujourd'hui, dont les lointains descendants sont Netanyahou, le Likoud et compagnie. Eux, leur idée, c'est on refuse le mandat britannique parce qu'ils disent que la Palestine, c'est juste la Palestine telle qu'on la connaît aujourd'hui, et c'est pas aussi la Transjordanie, c'est-à-dire la Jordanie aujourd'hui. Eux, ils voulaient vraiment le territoire biblique, entre guillemets. Hein. Et donc, les révisionnistes, eux, ils sont pas très contents. Et ils sont directement pour confrontation avec les Britanniques, refus du mandat. En fait, ils sont extrémistes dans le sens où, pour leur objectif, la colonisation de peuplement, c'est pas du tout réaliste, en fait. Ça, si le mouvement sioniste s'était affronté frontalement aux Britanniques dès le début des années 20, le mouvement sioniste n'aurait jamais triomphé. Et justement, c'est parce que la frange plutôt Ben Gourion, travailliste du socialisme, du sionisme a l'a emporté et a dit non mais il faut développer petit à petit à l'intérieur du mandat britannique et quand on sera suffisamment fort on s'en débarrassera. Ça c'était une optique beaucoup plus réaliste et effectivement c'est ce qu'ils ont fait des années 20 à 48 petit à petit à l'abri du colonialisme britannique d'une certaine manière et encouragé en partie par le colonialisme britannique petit à petit ils ont développé une économie, une armée, un gouvernement, une administration, un système scolaire, etc., etc. Petit à petit, ils ont acheté de plus en plus de terres, hein, parce que le grand mouvement de dépossession foncière, certes, il commence avant 1914, mais c'est vraiment à partir des années 20 que petit à petit, là, vraiment, le mouvement sioniste va grignoter de plus en plus de terres au détriment de la population palestinienne. La population palestinienne, du coup, bah, va être de plus en plus révoltée par cette colonisation rampante du sionisme, hein, la résistance, elle commence dès le début du XXe, mais elle se développe très fortement quand même à partir de la fin des années 20 et des années 30, parce que là, il y a quand même un constat massif que, en fait, le proto-État sioniste est en train de coloniser littéralement la Palestine, de voler les meilleures terres, enfin, de les acheter, entre guillemets, ou de... enfin, en tout cas, de s'accaparer des terres, petit à petit. Et c'est comme ça qu'on va déboucher sur la grande révolte. Alors, en 1929, il y a déjà des épisodes d'affrontements très violents entre les deux communautés, mais tout ça va déboucher sur la grande révolte arabe de 1936-1939, sur laquelle on ne va pas s'attarder pendant des heures. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, globalement, si la grande révolte a échoué et a été réprimée, c'est notamment parce que les Britanniques, en fait, ont soutenu plutôt les sionistes et ont écrasé dans le sang cette révolte. Et c'est parce que le mouvement national palestinien va être brisé par la répression coloniale britannique que, en 1947-1948, ils seront beaucoup moins capables de faire face aux opérations israéliennes diverses et variées pour les chasser pour les chasser du pays. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger.
Et je pense que, en faisant le lien sur le caractère social-démocrate du mouvement et 1948 et la Nakba, on peut dire que justement, et là ça va, comment dire, il y a le caract il y a les, le la position erratique de Staline sur la colonisation israélienne. Qui, par illusion diplomatique qu'Israël parce que socialiste allait se ranger dans son camp et par antisémitisme, a armé l'État israélien. Et la plupart des armes qui ont servi à la Nakba viennent du stock d'armes soviétiques.
Oui, je rajouterai, d'ailleurs, je rajouterai un troisième élément, c'est aussi le calcul de Staline, c'était comme les sionistes s'étaient quand même révoltés contre les Britanniques après 1945, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont pas contents, ils savent qu'ils vont rompre avec les Britanniques, puisqu'en 1939, en fait, ce qui se passe, c'est que les Britanniques arrêtent l'immigration juive. Bon, ce qui a d'ailleurs a des conséquences tragiques par ailleurs, puisque bon, il y a quand même pas mal de Juifs qui essayaient de fuir l'Europe. Donc bon, voilà, c'est un peu catastrophique d'avoir arrêté l'immigration juive à ce moment-là. Mais enfin, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1939, les Britanniques arrêtent. Ils ont compris que s'ils veulent continuer de coloniser la Palestine, il faut qu'ils donnent des gages au leadership nationaliste palestinien. Et donc, ils arrêtent l'immigration juive. Donc à partir de ce moment-là, les sionistes se disent bon. Ok, là, les Britanniques, ils nous ont bien servi, mais à mon avis, on va devoir s'en débarrasser. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a d'autres priorités. Et ils se disent aussi, on va acquérir des armes et une expérience militaire en servant dans l'armée britannique. Enfin, en tout cas, c'est le calcul que les sionistes travaillistes font. En 1945, bon, la guerre est gagnée. Ils se retrouvent avec plein d'armes, une formation militaire. Et du coup, ils se disent, bon, là, c'est le bon moment. On peut pas décoloniser le territoire. Mais on peut se l'accaparer. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé l'indépendance américaine, ce sont des colons qui se révoltent contre la métropole coloniale pour acquérir leur indépendance en tant qu'État colonial, encore plus oppressif des populations locales. Je veux dire, l'oppression des Indiens, bon, avant 1783, c'est pas mal, mais après, c'est encore pire. C'est un scénario qu'on retrouve en Australie, au Canada, etc., c'est-à-dire les colons qui se révoltent contre la métropole coloniale pour fonder un État colonisateur de peuplement. Et ben, c'est ce qu'ils se disent aussi en 1945, c'est-à-dire en gros, les sionistes, révisionnistes comme travaillistes, pour le coup, ils se disent « c'est bon, on peut rompre avec les Britanniques ». Alors, les sionistes, révisionnistes, ils y vont fort, ils font des énormes attentats, etc. Mais bref, tout ça va faire que petit à petit, en fait, les conditions... ils sont dans des conditions historiques où ils pensent qu'ils peuvent réaliser le projet sioniste, c'est-à-dire créer un État juif sur la majorité de la Palestine. Et donc, c'est ce qui va aboutir à une montée des tensions, des attentats, etc. Du coup, les Britanniques, au bout d'un moment, il y a tellement d'attentats commis par les sionistes qu'ils se rendent compte qu'ils doivent jeter l'éponge. Donc, ils confient le problème à l'ONU. L'ONU influencé par le leadership c'est une histoire compliquée l'ONU, le plan de partage de 47, souvent ce qui est dit notamment par les sionistes de gauche c'est c'était quand même un partage moite-moite équitable les leaders arabes ils ont refusé alors que les sionistes ont accepté. Ce qu'il faut dire par rapport à ça c'est que bon un c'était pas un partage très juste parce que les juifs représentaient seulement 15-20%, ils avaient 6% des terres, 6-10% des terres, enfin, en tout cas, ils étaient encore minoritaires en termes de terres et en termes de population, donc c'était pas du tout logique qu'ils aient la majorité du territoire, parce que le plan de partage de 47 leur donnait la majorité du territoire. Et du coup, pourquoi est-ce que l'ONU a été boycotté par les leaders nationalistes arabes? Parce qu'ils se sont vite rendus compte qu'en fait, ils favorisaient de manière très visible, en fait, disons que ça se voyait qu'ils allaient prioriser les intérêts des sionistes par rapport aux intérêts nationaux palestiniens. Bon, ce plan de partage, en tout cas, il gagne, notamment, comme tu l'as dit, grâce au soutien de l'URSS, qui se leurre complètement à divers titres, qui est aussi antisémite, etc., comme tu l'as bien dit. En tout cas, bon, le plan de partage l'emporte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où c'est très peu connu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où le plan de partage est adopté par l'ONU, en novembre 1947, tout cet État, tout ce proto-État colonial sioniste se met en branle. Depuis les années 30, et ça, je vais résumer à très grand trait ce que dit Ilan Pappé et un certain nombre d'autres historiens, en gros, depuis les années 30, il y a déjà une sorte de préparation plus ou moins avancé, hein, selon les historiens, c'est pas très très clair. Mais en gros, depuis les années 30, on est passé de l'utopie de « un jour ce pays sera le nôtre » à bon, on va ce pays pourra être le nôtre à un moment. Et donc il y a une préparation plus ou moins active de, en gros, rendre la Palestine majoritairement, enfin, sous contrôle politique d'un État majoritairement juif. Et pour ça, il y a un certain nombre d'indices probants, notamment les fameux Village Files que Ilan Pappé a découvert dans les archives, où en gros, bah, dans les archives, on voit que depuis les années 30, en fait, il y a des informateurs sionistes, du mouvement sioniste, qui vont dans tous les villages palestiniens pour voir qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les meilleures terres, c'est qui les gens qui vont nous poser des problèmes, etc. Et un certain nombre de ces gens-là, sur ces listes noires, vont être exécutés en 47-48. Donc il y a une préparation active d'une opération d'épuration ethnique. Alors, l'épuration ethnique, c'est un gros mot, mais ça veut simplement dire on se débarrasse d'une population par n'importe quel moyen, y compris si on les fait fuir par la terreur. Il y a une partie des Palestiniens qui fuient en 47-48, qui fuient par la terreur. Ils ne sont pas directement massacrés. Il y a une partie qui sont massacrés, mais ils ne sont pas toujours massacrés, ils ne sont pas toujours victimes d'une opération militaire. Mais pour autant, c'est quand même de l'épuration ethnique lorsqu'on terrorise une population au point qu'elle fuit, et qu'ensuite on les empêche de revenir, c'est une épuration ethnique, c'est la définition d'une épuration ethnique. Mais j'avance un petit peu. Ce qui se met en branle en novembre 1947, c'est justement cette opération ethnique, cette opération d'épuration ethnique. Ilan Pappé parle d'un plan d'Alès, bon, c'est très controversé, etc. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que il y a un accord d'une partie assez large du leadership sioniste sur le fait qu'il faut... c'est pas toujours, ils utilisent pas toujours les termes, mais en gros, il faut forcer les Palestiniens à partir. Alors, il y a un mélange de massacres, généralement, mais pas que, orchestrés par les sionistes révisionnistes du groupe Stern, notamment. Donc, en gros, l'extrême droite sioniste qui aujourd'hui est au pouvoir, notamment le fameux massacre de Deir Yassin. Mais en fait, le leadership sioniste qui, à l'époque, est majoritairement... social-démocrate, comme tu l'as dit. En fait, eux, c'est très clair que les directives qu'ils donnent, c'est en gros, ça va plutôt dans un sens de débarrassez-nous des Palestiniens. Alors, parfois ça se traduit par des massacres, parfois ça se traduit par des opérations militaires d'expulsion forcée, hein, y en a pas mal qui sont documentées, et parfois... en fait, à force qu'il y ait des massacres et des opérations militaires forcées, en fait, les autres gens prennent peur. Un autre mythe qu'il faut remettre en cause, c'est que la Nakba, c'est à partir de mai 1948, c'est-à-dire à partir du moment de l'invasion des armées arabes. Et dans ce cas-là, on a le grand récit qu'on entend souvent de « Ah oui, bah en fait, c'est une guerre entre les pays arabes et Israël, Israël lutte pour sa survie, et donc en fait, bon, bah, les Palestiniens sont expulsés, mais c'est parce que les armées arabes leur ont dit... » Ça, c'est la version vraiment de propagande, où c'est, bon, bah, ils ont fui les ravages de la guerre, les pauvres, un peu ce que dit Benny Morris. C'est une conséquence tragique de la guerre. En réalité, l'épuration ethnique de la Palestine commence avant mai 1948. Globalement, les villes de la Palestine sont déjà vidées de leurs habitants dès la période, en gros, pendant l'hiver... et le printemps, l'hiver 47-48 et le printemps 1948, notamment sous la pression des attentats, des violences, de la terreur, en fait, opérée par les milices sionistes de cette époque. Donc les gens sont pas partis comme dans n'importe quelle guerre. Avant mai 1948, ils sont partis exclusivement en raison... de la terreur et de la violence sioniste. Et après mai 1948, oui, certes, ils partent notamment à cause de la guerre, mais ils partent pas parce que les armées arabes leur ont dit vous partez, vous pourrez revenir avec nous. Ils partent parce que ils ont peur, en fait, de se faire massacrer, parce qu'il y a eu des massacres de Palestiniens, notamment à Deir Yassin. Et donc, tout ça pour dire que, en fait... L'État d'Israël qui naît en 1948, la fameuse déclaration d'indépendance du 15 mai, si je me souviens bien, 1948, ce n'est pas le produit simplement d'une sorte de miracle, de David contre Goliath, Israël héroïque face aux armées arabes. C'est un mouvement déjà qui, comme tu l'as dit, est soutenu internationalement par l'URSS qui lui fournit des armes, les États-Unis aussi dans une certaine mesure, et c'est aussi un mouvement qui, en fait, est beaucoup plus avancé en termes de... parce qu'ils n'ont pas subi de répression coloniale en 36-39, en termes de formation militaire, en termes de proto-État, etc., etc., c'est des choses que les Palestiniens n'ont pas pu développer pendant le mandat britannique. Donc ils sont en position de force, ils en profitent avant mai 1948 pour vider les villes, et après, ils triomphent des armées arabes en mai 1948, ils avaient toutes les chances de gagner, hein. Oui, ils ont sans doute eu très peur de perdre, mais... le rapport de force était quand même plutôt en leur faveur, toute chose égale par ailleurs, disons, et c'est ça qui va aboutir à bon, ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion de la grande majorité de la population palestinienne des de ce qui est aujourd'hui le territoire internationalement reconnu d'Israël. Donc Israël s'est vraiment fondé, même en 1947-48, si on se concentre sur ce moment, sur une épuration ethnique, par la terreur, la violence, les massacres. Ok, d'accord, pas que par le massacre, mais aussi par la terreur. Et bon, si aujourd'hui on condamne le terrorisme, à juste titre, je pense qu'il faudrait aussi condamner le terrorisme de la colonisation de peuplement en 47-48. Et les racines de ce qui se passe aujourd'hui sont là. Par exemple, la bande de Gaza s'est créée en 1948. Avant, il y a une ville qui s'appelle Gaza. Et en fait, la bande de Gaza, c'est quoi ? C'est tous les réfugiés qui fuient les massacres des milicionnistes, les violences, la terreur, etc., des milicionnistes, puis de l'armée israélienne, qui se réfugient, en fait, dans cette étroite bande de terre qui devient une sorte de gigantesque camp de réfugiés à ciel ouvert, et qui l'est resté depuis.
Eh bien, merci Armand pour cette émission. Je pense qu'elle a été très intéressante et j'espère qu'elle va participer au débat et à la politisation du mouvement en cours contre les opérations militaires à Gaza. Et au revoir.
Au revoir. Merci. Spectre.